Chapitre 40, le successeur. Axel Rissen retire lentement ses boutons de manchette et les dépose dans un bol en bronze sur la commode. Ils appartenaient à son grand-père qui était amiral, mais le motif, deux palmes disposées en croix, n'est pas militaire. Axel Rissen se regarde dans un miroir posé près de la porte du dressing. Il ôte sa cravate, puis traverse la pièce et s'assied au bord du lit. Les radiateurs émettent une sorte de chuintement, mais il distingue quelques notes de musique de l'autre côté du mur. Elles proviennent de l'appartement de son petit frère. Il reconnaît un solo pour violon et se remémore aussitôt la mélodie. Dans son esprit résonne alors la première sonate pour violon en sol mineur de Bach, le mouvement du prélude, un adagio, bien plus lent que les interprétations habituelles. Axel n'accorde pas seulement son attention aux notes, mais prend plaisir à écouter chaque sifflement des harmoniques et chaque coup involontaire de l'archet contre le bois du violon. Ses doigts frémissent lorsqu'il entend changer le tempo de la musique. Ses mains semblent se languir de l'instrument. Cela fait longtemps qu'il n'a pas laissé ses doigts courir sur les cordes, remonter la touche. La sonnerie du téléphone interrompt sa rêverie et il se lève en se frottant les yeux. Il est exténué, car il n'a quasiment pas dormi de la semaine. Le numéro sur l'écran indique que l'appel provient du Regeringskanzleit, le siège du gouvernement. Axel s'éclaircit la voix avant de répondre d'une voix posée. Axel Rissen.
Mon nom est Jürgen Grünlicht. Comme vous le savez peut-être, je suis président de la commission d'enquête des affaires étrangères au sein du gouvernement.
Bonsoir.
Je suis désolé de vous appeler à une heure si tardive.
J'étais réveillé.
On m'a dit que vous le seriez.
Lui répond-il avant de poursuivre d'une voix hésitante.
Je sors d'une réunion de direction. Nous avons pris la décision de vous proposer le poste de directeur général de l'ISP.
Je vois. Un silence s'installe, auquel Grünlicht s'empresse de mettre un terme.
Je présume que vous savez ce qui est arrivé à Karl Palmkrona.
Seulement ce que j'ai pu lire dans les journaux. Grünlicht se racle légèrement la gorge et dit quelque chose qu'Axel n'arrive pas à comprendre avant d'élever la voix.
Vous connaissez le travail et pourriez en théorie, si vous acceptiez notre proposition, être opérationnel d'ici peu.
Je dois terminer ma mission pour l'ONU.
Cela vous pose-t-il un problème?
Demande Grünlicht d'une voix inquiète. Non.
Vous allez évidemment prendre connaissance des termes du contrat, mais tout est négociable. Comme vous l'avez compris, nous aimerions beaucoup pouvoir vous compter parmi nous. Inutile de vous le cacher.
Laissez-moi y réfléchir.
Auriez-vous un moment à nous consacrer demain matin?
Il y a urgence?
Nous prenons toujours le temps nécessaire. Mais il est évident qu'au vu de ce qui s'est passé, nous avons été relancés par le ministre du Commerce au sujet d'une affaire qui traîne depuis quelque temps déjà.
De quoi s'agit-il?
Rien d'exceptionnel. Il s'agit d'une autorisation d'exportation. L'accord de principe était positif. Le groupe parlementaire en charge de contrôler l'export, l'Export Control Rodette, a déjà donné son feu vert. L'affaire est traitée, mais Palmkrona n'a pas eu le temps de signer.
Et il faut sa signature?
Il n'y a que le directeur général qui puisse valider l'exportation des biens ou des matériels de défense à double usage.
Mais le gouvernement entérine certaines affaires, non?
Uniquement si le directeur général de l'ISP a décidé de les confier au gouvernement.
Je vois. Axel Rissen a travaillé pendant 11 ans en tant qu'inspecteur en charge du matériel de guerre dans l'ancien système, pour le ministère des Affaires étrangères, avant d'être embauché par un organe subsidiaire de l'ONU, l'UNODA, le Bureau des Affaires de Désarmement. Il est désormais conseiller principal au sein de la division d'analyse et d'évaluation. Rissen est seulement âgé de 51 ans, et ses cheveux poivre et sel sont encore fournis. Ses traits sont fins et réguliers. Il a conservé le bronzage de ses vacances en Afrique du Sud, où il avait loué un voilier pour longer en solitaire les vertigineuses côtes escarpées du Cap. Une fois dans sa bibliothèque, Axel s'installe dans un large fauteuil et ferme ses paupières lourdes de fatigue. Il songe à la mort de Karl Palmkrona. Il avait lu un entrefilet à ce sujet dans le Dagens Nyheter. Il était difficile de comprendre ce qui s'était réellement passé, mais le texte indiquait que rien ne laissait présager sa mort. En tout cas, visiblement, il n'était pas malade. Ces dernières années, ils s'étaient rencontrés en de nombreuses occasions. Ils étaient tous deux experts lors de la préparation de la proposition qui a conduit à la décision parlementaire de fusionner la Kriegsmaterielinspektionen, l'inspection du matériel de guerre, et le Conseil du contrôle stratégique de l'exportation du Regeringskanzleramt en une seule instance, l'inspection pour les produits stratégiques. Et maintenant, Palmkrona était mort. Axel se remémore parfaitement ce grand homme pâle avec sa coupe militaire et son air solitaire. Une vague d'inquiétude l'envahit soudain. La maison est trop calme. Axel se lève et fixe la porte en tendant l'oreille. « Beverly ?» appelle-t-il doucement. « Beverly ?» Pas de réponse. Son inquiétude se mue en une angoisse diffuse. Il traverse les pièces d'un pas rapide et se dirige vers le vestibule pour prendre sa veste et sortir la chercher, lorsqu'il l'entend fredonner. Sortant pieds nus de la cuisine, elle lui adresse un regard interrogateur lorsqu'elle aperçoit son visage préoccupé. « Axel ?» dit-elle de sa voix claire. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'avais peur que tu ne sois sorti, » marmonne-t-il. « Dans ce monde plein de dangers ?» sourit-elle. « Je dis simplement que tout le monde n'est pas digne de confiance. Je n'accorde pas ma confiance. Je regarde les personnes. J'observe leur rayonnement. S'ils sont entourés d'un halo de lumière, je sais qu'ils sont gentils. » Ne sachant quoi lui répondre, Axel se contente de lui dire qu'il lui a acheté des chips et une bouteille de Fanta. Elle semble ne pas l'entendre. Il cherche à lire sa disposition d'esprit sur son visage, se demandant si elle est sur le point de devenir agitée, déprimée ou renfermée. « Tu penses toujours qu'on devrait se marier ?» demande-t-elle. « Oui, » ment-il. « C'est juste que les fleurs, ça me fait penser à l'enterrement de maman et au visage de papa lorsque... »«
On n'a pas besoin d'avoir des fleurs. »«
Mais j'aime bien le muguet. »«
Moi aussi, » répond-il d'une voix faible. Ses joues rougissent de satisfaction et il l'entend faire semblant de bâiller pour lui faire plaisir.
« J'ai tellement sommeil, » dit-elle en quittant la pièce. « Tu veux dormir ?»«
Non, » répond Axel comme pour lui-même. Pourtant, il se lève et la suit. Il traverse l'appartement avec la forte sensation que certaines parties de son corps tentent en vain d'arrêter sa progression. Il se sent gauche et curieusement lent en la suivant dans le couloir en marbre, puis en montant l'escalier qui mène aux deux salons qu'ils doivent traverser pour atteindre la suite où ils se retirent le soir. La jeune femme est menue. Elle ne lui arrive même pas à la poitrine. Ses cheveux ont commencé à repousser depuis qu'elle s'est rasée la tête la semaine dernière. Elle lui donne un baiser furtif. Il sent l'odeur de caramel qui émane de sa bouche.